vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 83. Barbara en Alsace et le nazi d'Aubernais. Chers amis, bonjour. Nous poursuivons dans cette nouvelle saison de l'automne 2024 notre émission, vous l'avez bien connue, sur Radio Judaïca Strasbourg, avec la lecture d'histoires que j'ai écrites dans l'esprit de tout ce que nous racontons depuis 3 ans. Le temps perdu, le jeu du hasard, les personnes que nous croisons mais que nous ne reconnaissons pas, les experts du temps. De l'Homo sapiens à ceux qui ont oublié la pandémie du Covid et tous ceux qui pensent que la mémoire, celle des faits et celle que l'on s'invente, on peut-être vivre sans, mais on vit beaucoup mieux avec. Aujourd'hui donc, Barbara en Alsace, c'est en 1966. Et deuxième partie du titre de l'émission, le nazi d'Aubernais, alors le père et le fils, hein, aucun lien entre ces histoires. Alors, je vous ai fait part de mes choix la semaine passée dans cette émission, sans contrainte ni personne, en répétant que tout ce qu'on invente est vrai, phrase que j'emprunte à Flaubert et à Madame Bovary, mes histoires ne sont pas des reportages. Ce ne sont pas des leçons sociologiques ou historiques. Ce sont, et sans trop de fausse modestie, parce que j'aime cela, ce sont des exercices littéraires. Je vous ai également donné mon point de vue sur la musique qui ponctue chacune des histoires. Ce ne sont pas des illustrations sonores comme des respirations bouche-trou, ce sont des plages musicales autonomes et le même disque ou CD pour chaque émission, entre chaque épisode, donc Barbara, puis le nazi d'Aubernais. Alors, en 2 épisodes, vous l'entendrez, le père et le fils. Et aujourd'hui, Yehudi Menuhin, le concerto numéro 1 en la mineure de Jean-Sébastien Bach, et nous serons tenus par le temps de chinter quelque peu les plages, je m'en excuse par avance. Alors, Barbara assiste au concert du public de Dorlisheim. Barbara, c'était déjà un succès d'estime. Accueillir une chanteuse, art et essai, comme aurait dit un cinéphile, dans un village. Elle chante à Bobino, à Genève, à Bruxelles. Elle part en tournée en France, dans de grandes salles. Et en ce mois de mars 1966, elle est en Alsace. La dernière des dates de concert, ce sera une gentille salle des fêtes, le château de Brosse à Dorlisheim. Barbara est invitée avec ses musiciens à la télévision régionale à Strasbourg. Mes textes n'ont de qualité littéraire que si on les lit avec la mélodie. Et que dire de plus ? Pas d'interview. Alors, Patrick Martin et Gérard Brianti enregistre alors une courte version de 2 minutes 42 de la chanson « Si la photo est bonne ». Barbara est au piano et la caméra de studio de l'ORTF fait un petit peu de chiquet à travers une fenêtre de théâtre pour cadrer le contrebassiste et l'accordéoniste. Alors aujourd'hui, c'est un document d'archives du patrimoine audiovisuel de l'Alsace à l'INA. Le décor noir et blanc joue du style des mobiles de Calder et la diffusion, ce sera ce 12 mars 1966, donc une bonne promotion pour assurer une salle pleine. Et alors cette vidéo, on peut la retrouver sur le site de l'INA. Je vous la recommande, elle est vraiment assez amusante. Donc, le 12 mars 1966, cette vidéo est projeté sur les télévisions. À l'époque, il n'y avait qu'une seule chaîne, et donc les gens l'ont bien entendu, bien vu, bien regardé, et la salle est pleine à Dorlisheim. Barbara est rigoureuse, exigeante, maniaque. Le tabouret est placé au millimètre près au centre de la scène. Sur la table, dans les coulisses, un paquet de réglisses en et un bocal de cornichons, alors des cornichons faits maison par la gardienne du château, aigre doux, au sucre roux et avec du vinaigre Melfort. Alors là, je vous conseille vraiment cette recette. Si vous faites des cornichons, utilisez du vinaigre Melfort. Barbara arrive très tôt dans la salle, surtout pas d'émotion de dernière minute. Mais ce soir, Barbara a perdu sa voix. Elle est aphone, vraiment. La fatigue, quelques soucis d'amour et de lointaines angoisses. Alors on téléphone au médecin du village et à sa phoniatre à Paris. Elle avale du miel, elle accepte une piqûre de vitamines. Impossible de chanter. Le public venu de Mutzig, de Molsheim, d'Altorf, de Rosheim ne s'impatiente pas. Barbara va saluer, elle s'excuse, elle s'avance, le micro crachote et elle chuchote. Elle reviendra bientôt. On applaudit. Une voix dans la salle ose s'élever dans le brouhaha. Je l'ai trouvée devant ma porte un soir que je rentrais chez moi. Partout elle me fait escorte. Elle est revenue. La voilà. Barbara sourit. Mais le public, le voilà. Il chante. Les spectateurs poursuivent la chanson. La renifleuse des amours mortes, elle m'a suivi pas à pas. Barbara est éberluée. Elle va doucement vers le piano. Elle donne le tempo. Elle accompagne cette dame qui connaît par cœur la solitude et qui enchaîne avec une petite cantate du bout des doigts. Ils sont maintenant dans la salle une dizaine à chanter et tous reprennent similaré si soldofa. C'est toute la salle qui chante le programme du concert. On brode sur les paroles ou on fredonne la 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 la. Pour le rythme, les musiciens sortent des coulisses, montent sur scène et suivent les spectateurs. Barbara masque ses larmes de bonheur. Il n'y a aucune fanfaronnade, juste l'amour des chansons. Pour la première fois, Barbara assiste à un concert de son répertoire. C'est elle qui applaudit la salle et d'un filet de voix détourneaux chansonnées, Barbara murmure « J'ai pleuré mes larmes, mais qu'ils me furent doux, tous ces sourires de vous, vous étiez venus m'attendre, je reviendrai un soir en septembre. » Et soudain, comme une révélation, « Je vais vous écrire une chanson pour le public de Dorlisheim. Cela s'appellera « Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous !» C'était le premier mouvement Allegro non tanto du concerto numéro 1 en La mineur de Jean-Sébastien Bach, interprété génialement par Yehudi Menuhin, et c'est un enregistrement qui date de 1936. Deuxième histoire aujourd'hui, alors là le titre est explicite, peut-être qu'on ne sait rien du soldat nazi d'Aubernay. Alors juste un petit mot, cet habitant d'Aubernay qui était nazi, il est mentionné dans des témoignages de la bataille de Hattin en mars 1945, l'opération Nordwind, quelqu'un de bien de chez nous, dont j'ai découvert l'existence pour préparer une conférence sur l'opération Nordwind en lisant des journaux intimes des habitants de cette région de l'Outre-Forêt. Peut-être qu'on ne sait rien du soldat nazi d'Aubernay. Un monsieur d'Aubernay est mentionné dans un livre de souvenirs historiques relatant l'opération Nordwind à Hattin en janvier 1945. La bataille fit 1500 morts côté allemand, 1000 chez les Américains. Il y eut une centaine de civils tués et 350 maisons sur les 365 du village furent détruites. Les militaires sont cités en fonction de leur poste de commandement. Alors les nazis gradés selon leur bataillon, puis les nazis locaux, on mentionne leur ville d'origine. Et un nazi alsacien habitant Aubernay combattait en première ligne. Il fit un soir un prisonnier, un jeune soldat américain de 18 ans, qu'il interrogea dans une maison devant les Hattenois. Le lendemain, on trouva le jeune prisonnier dans le caniveau, une balle dans la tête, un témoignage, après la guerre, d'un occupant de la maison. Les rues de Hattin étaient jonchées de morts. Des morts par hasard, quand il s'agissait des civils, des morts par prise de risque, ou par imprudence, ou par bravoure, lorsqu'il s'agissait de militaires. Cela dit sur le papier, car la réalité sur le terrain était bien entendu beaucoup plus nébuleuse. Mais exécuter un prisonnier, probablement pour s'en débarrasser, ou simplement par absence d'humanité, ou des règles, le respect des règles, la Convention de Genève par exemple, cela semblait peut-être plus révoltant que d'être tué par un obus explosant au-dessus de votre tête. On sait que parmi les soldats allemands, je mets soldats entre guillemets, il y avait des gamins de 16 ou 17 ans qui n'avaient pour toute préparation militaire que leur passage chez les scouts de l'époque, les jeunesses hitlériennes. Ceux-là mouraient tout de suite, dès qu'ils arrivaient sur les lieux de combat. Les Allemands avaient une supériorité stratégique. Les Américains voulaient se replier sur les hauteurs des Vosges. Puis Hitler, malgré l'avis contraire de ses généraux, ordonna à son armée de quitter l'Alsace et de se replier sur Berlin pour défendre la ville contre l'arrivée des Russes. Le soldat nazi d'Aubernay a-t-il été tué dans la capitale allemande ? A-t-il survécu à ses derniers combats ? A-t-il tenté de fuir en se déguisant en civil ? A-t-il été fait prisonnier dans un goulag ou dans un camp américain ? Aujourd'hui, son nom est-il connu des universitaires spécialistes de cette période de l'Alsace ou bien des historiens amateurs d'Aubernay qui publient leurs recherches dans des revues ? Est-il mentionné dans les archives de la ville ? Les conservateurs ont-ils un dossier plus ou moins secret dans l'un des musées ? Ce nazi est-il revenu à Aubernay pour peut-être poursuivre une vie paisible ? Le nazi originaire d'Aubernay de la bataille d'Hattin, comme le nomme le témoignage précis d'un habitant de la petite ville dans son livre de souvenirs tragiques, c'était le titre de ce livre, intime, mais quand même publié pour la famille, pour la bibliothèque municipale. Donc, dans souvenir tragique, on s'interroge un petit peu sur ce nazi d'Obernai. Il avait certainement de la famille et peut-être maintenant des décédents. Des décédents, oui. Est-il un inconnu ? Qui chercherait à le faire sortir d'un lointain oubli, comme dans un roman de Modiano, alors que probablement, à Obernai, on ne veut pas se souvenir de son nom ? Mouvement numéro 2, Andante, du concerto numéro 1 en la mineure de Bach par Yehudi Menuhin. Alors ce sont des disques 78 tours hein, de 1936 qui ont été transférés en 1988 sur des supports digitaux. La troisième partie de notre émission, vous l'avez bien connue, qui est la suite de l'épisode précédent, hein, le nazi d'Obernai, et que j'ai intitulé « Règlement de compte à Niederney ». Alors, cette histoire, je l'avais publiée sur mon blog AFP Ambroise Fiction Presse et j'ai réceptionné cette lettre de réponse. Règlement de compte à Niederney. Bonjour monsieur, je pense que le nazi d'Obernai que vous évoquez dans votre dernière chronique était mon père. Alors, j'écoute la suite du message hein, sur mon répondeur. Je suis né en 1940, mon père s'est suicidé en 1946. Ce n'était pas des remords, mais la peur d'être reconnu et capturé. J'ai grandi à Obernai avec un sentiment d'amour et de haine à l'égard de mon père, pour lequel, très vite, j'ai décelé les mensonges de ma mère, les mensonges de ma famille, les mensonges des voisins. Et le message laissait un numéro de téléphone. Alors, j'ai rappelé, il m'a dit « Mon nom est Karl Niklas ». Et de suite, il a ajouté « J'ai toujours sa photo sur moi, son corps sans vie, une balle dans la tête. Je la regarde tous les jours pour me souvenir pour être sûr qu'il est bien mort. » Alors, moi, j'ai lu des livres qui relatent de tels témoignages, mais je suis quand même bouleversé, donc je lui propose de nous rencontrer. Mais Karl Niklas me répond « Non, ce n'est pas la peine, je suis fatigué. » Mais il veut encore me parler avant de raccrocher. Il me dit qu'il est un vieux monsieur, professeur de philosophie à la retraite depuis plus de 20 ans. Il a vécu en Allemagne, un pays qu'il déteste, et aujourd'hui, il possède une petite maison à Niederney. Alors, si c'est Ober comme Aubernet, c'est supérieur, et Nieder, c'est un petit peu caché, c'est derrière, plus petit. Il me raconte qu'adolescent, il avait ici comme voisin un peintre japonais qui lui avait donné l'envie de fuir l'Alsace et d'aimer le monde entier. On allait en famille se promener vers l'Ettenhösel. Je regardais les trois tumuli et je pensais aux morts. À tous les morts à cause de mon père. Ma mère me racontait qu'une centaine de sorcières avaient habité dans cette forêt et que tout ça, mon père, c'était peut-être de leur faute. Elle disait toujours « ça » pour parler de l'époque nazie à Aubernet, sans prononcer le mot. Et je devais être persuadé que, oui, c'était la faute des sorcières pour mon père. Ton père était un brave homme. C'est quoi la culpabilité ? La conversation se prolonge. Le soir tombe, on chuchote presque au téléphone. C'est quoi la culpabilité ? Vous posez la question au fils du nazi alsacien ou au prof de philo allemand ? S'il avait été jugé par un tribunal, on l'aurait condamné pour avoir tué combien d'êtres humains ? Concevoir un passé odieux n'est pas facile. Il faut d'abord créer des brèches dans le silence. Je n'ai jamais questionné les historiens locaux d'Aubernet. J'ai peut-être manqué de courage civique. Je n'ai jamais eu de cesse que de m'enfuir, me dit le vieil homme au téléphone. Alors moi, je reprends. En tant qu'Alsacien, mais il m'interrompt. Je distingue trois ou quatre notions de culpabilité. La culpabilité criminelle qu'un tribunal condamnera avec de lourdes peines. La culpabilité politique, celle des chefs. Et chaque individu a une part de responsabilité dans la manière dont son pays est gouverné. La culpabilité morale, tout acte répond à une conscience individuelle et... Befehl ist Befehl. Un ordre est un ordre. Ne peut jamais avoir de valeur décisive. Et la culpabilité métaphysique, parce qu'il doit y avoir une solidarité entre les hommes qui les rend co-responsables de toutes les injustices. Je reste quoi ? Ce sont des bavardages scolaires, enchaîne-t-il, pour signifier de sa voix que je trouve sympathique, qu'il ne veut pas en dire plus. Il ajoute que sortir en ville et rencontrer des gens aujourd'hui, c'est encore difficile pour lui. Ma famille a toujours nié les crimes de mon père, tenté de comprendre et voué à l'échec. Troisième mouvement Allegro interprété par Yehudi Menuhin en 1936 du concerto numéro 1 en la mineur de Jean-Sébastien Bach. C'était l'épisode numéro 83 de Vous l'avez bien connu sur Radio Judaïka Strasbourg. Aujourd'hui, nous avons évoqué la chanteuse Barbara en concert en Alsace en 1966 et l'oubli d'un Alsacien d'Aubernet qui avait rejoint les rangs des nazis. La semaine prochaine, nous parlerons de la chanteuse de country, Patsy Cline, un nom bien alsacien. Nous parlerons aussi d'une vedette mondiale, Roger Siffert, et nous nous baignerons dans la bruche vagabonde. Vous l'avez bien connue tous les mardis à 11h30 et rediffusion le dimanche à midi. À la technique, Thomas Marinelli et mon nom est Ambroise Perrin.
fellows meet, like you and I. No connection between...